Val de Hansenne, en direct de 10h à 16h, la radio qui se met en scène.
Eh Naofel, il s'est passé quoi cette année au cinéma?
Tiens-toi prête et prépare-toi à ce qu'on explore ensemble l'année 2023 en cinéma. Commençons d'abord par le box-office de l'année 2023. Les chiffres du box-office sont toujours passionnants à découvrir, car ils reflètent les préférences du public et le succès de l'industrie cinématographique. Selon les derniers rapports, l'année 2023 a été marquée par une diversité de genres qui ont réussi à captiver le public. Il y a aussi eu Barbie, étant le film ayant eu le plus de succès en 2023, avec une recette de 1441 milliards de dollars. Ensuite, tout proche, on a le film Super Mario Bros, avec un box-office s'élevant à 1368 milliards de dollars, et Oppenheimer avec 952 milliards de dollars, ce qui nous fait un top 3 assez diversifié. Les films de super-héros ont, comme d'habitude, attiré l'attention, avec des blockbusters comme Les Gardiens de la Galaxie 3 ou encore Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais ça, c'est niveau international.
Mais en France, c'est pas le top 3. C'est quoi alors?
On y retrouve des films américains comme Mario et Barbie, mais en troisième place, c'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
C'est génial!
Cette année, il semble que les cinéphiles aient été servis avec une gamme de l'action palpitante à des récits plus intimes.
N'oublions pas les technologies de pointe qui ont continué à rehausser l'expérience cinématographique, comme les formats IMAX, les projections en 3D et d'autres innovations visuelles.
Alors ok, mais pourquoi les films que tu as cités ils sont américains et pas français?
C'est normal, Lilou, car les industries cinématographiques sont différentes dans le monde. Il y a trois grands noms qui sortent. Ils sont des acteurs majeurs dans les paysages cinématographiques mondiaux, mais elles présentent des caractéristiques distinctes.
Évidemment, il y a Hollywood, avec un budget élevé et une production massive. Hollywood est renommé pour ses budgets de production élevés qui permet la réalisation de films à grand spectacle avec des effets spéciaux sophistiqués. Ces films ont une portée internationale et une audience mondiale avec des productions souvent adaptées pour plaire à un public diversifié. Il y a ensuite Bollywood.
Ça, je connais ça. Ça vient d'Inde, non?
Bah oui. Bollywood a des films avec musicalité et danse. Les films de Bollywood sont souvent caractérisés par des scènes musicales et des danses, faisant partie intégrante du récit. Bollywood produit un grand nombre de films chaque année, couvrant divers genres, des drames romantiques aux films d'action. Mais j'ai oublié, c'est quoi le troisième?
En troisième position, avec des budgets modestes et une créativité hors pair, c'est Nollywood, qui vient du Nigeria. Le pays se distingue par des budgets plus modestes, mais cela a conduit à une créativité remarquable dans la narration et la production. Les films sont surtout appréciés pour leur représentation de la culture locale. Les films de Nollywood mettent souvent en avant la richesse de la culture nigériane avec des thèmes locaux et des langues indigènes. Chacune de ces industries a un impact significatif sur le monde du cinéma, apportant des perspectives culturelles uniques et attirantes des publics variés. Alors que Hollywood est souvent associé à ses blockbusters mondiaux, Bollywood et Nollywood apportent une diversité culturelle essentielle à l'industrie cinématographique mondiale.
Mais pourquoi dans mon cinéma je vois des films français si la France elle est même pas dans l'industrie du cinéma?
Car en France, comme en Corée du Sud, il y a la loi d'exception culturelle.
La quoi?
La loi d'exception culturelle.
Elle sert à quoi cette loi? Ça a un rapport avec la question?
Figure-toi que oui, laisse-moi t'expliquer. En France, la loi d'exception culturelle a été mise en place pour protéger l'industrie cinématographique et audiovisuelle nationale contre le cinéma étranger, notamment américain. L'idée est de préserver la diversité culturelle en favorisant la production, la distribution et la diffusion des œuvres culturelles françaises. Cela se traduit par différentes mesures, tels que des quotas imposant la diffusion d'œuvres françaises sur les chaînes de télévision et dans les salles de cinéma. Cette loi vise à soutenir la création artistique nationale et à garantir que le public ait accès à une variété de contenus culturels.
Mais c'est génial!
C'est dommage qu'il n'y ait pas ça partout. Grâce à ça, on aide nos acteurs à gagner de l'argent.
Mais comment ils gagnent de l'argent, en fait, les acteurs?
Ah, c'est facile, t'inquiète, je vais t'expliquer. Il est important de noter que cela peut varier considérablement en fonction de divers facteurs, tels que la notoriété de l'acteur, le budget du film et les négociations contractuelles. Les acteurs peuvent être rémunérés par un salaire fixe, des pourcentages sur les recettes, des bonus en cas de succès au box-office ou une combinaison de ces éléments.
Ok, d'accord. Mais pourquoi je paye autant ma place de cinéma si c'est même pas leur salaire? On paye pour regarder les films au ciné, mais il va où l'argent?
Bah, écoute-moi. L'argent que tu donnes va être réparti entre plusieurs acteurs de l'industrie du cinéma. Lorsque tu payes un billet de cinéma, une part de cet argent va au cinéma lui-même pour couvrir les loyers, les salaires du personnel, l'entretien, les impôts et d'autres dépenses liées à l'exploitation du cinéma. Il y a aussi les taxes. Celle qui prend le plus d'argent est la TSA. Elle permet de financer le fonctionnement du CNC. C'est par exemple grâce à l'argent récolté par cette taxe que l'organisme pourra aider financièrement des producteurs à monter leurs projets sous la tutelle du ministère de la Culture, le CNC, Centre National du Cinéma et de l'Image.
Vient ensuite une autre taxe que l'on retrouve de partout, mais vraiment partout. La fameuse TVA. Une autre partie est reversée aux distributeurs de films, c'est-à-dire aux sociétés qui fournissent les films au cinéma. Ensuite, une part des recettes de billetterie revient aux studios de cinéma qui ont produit les films. Enfin, après déduction de ces coûts, une partie des revenus de billetterie est également partagée avec les sociétés de production et les diverses parties prenantes impliquées dans la création et la distribution du film, la SACEM. L'argent va aussi servir à la production de nouveaux films, rémunération des acteurs, réalisateurs et des équipes de production.
Ah, donc grâce à moi, les acteurs sont payés. Ah mais purée, je suis trop forte en fait.
Si tu le dis. Et enfin, les dépenses publicitaires pour la promotion des films. Et tout ça avant de générer des bénéfices pour les investisseurs et les studios.
Donc si je comprends bien, pour donner un salaire aux acteurs, je dois regarder leurs films. Mais le cinéma c'est trop cher, je peux pas simplement regarder leurs films en streaming.
Bah malheureusement non. Le streaming a eu des impacts économiques, culturels et sociaux sur le cinéma. Et cela a augmenté lors du confinement. Le streaming a transformé la distribution des films en offrant une alternative à la sortie en salle, beaucoup moins chère, pratique et abordable. Les plateformes de streaming permettent aux spectateurs de regarder des films à la maison, souvent peu de temps après leur sortie en salle, ce qui a modifié les habitudes de consommation. Cette flexibilité a affecté les cinémas en changeant les modèles de fréquentation, en posant des défis pour attirer les spectateurs. De plus, les plateformes de streaming ont influencé la manière dont les films sont vendus, car les studios doivent maintenant négocier des droits de diffusion en ligne, en plus des sorties en salle. Sur le plan social, le streaming a considérablement élargi l'accès à une grande variété de films. Les spectateurs peuvent désormais découvrir des films provenant de divers pays et cultures.
Ah, donc par exemple, je peux regarder mes films bollywoodiens.
Oui, et ainsi que des films indépendants ou moins connus. Cela a contribué à une plus grande diversité dans les contenus cinématographiques accessibles au public. Cependant, cet accès facile a également changé les habitudes de visionnage, car de plus en plus de personnes choisissent de regarder des films à la maison plutôt que de se rendre au cinéma. Certains ont effectivement gardé leurs habitudes du confinement. À noter que les 15-25 ans vont le plus souvent au cinéma et les plus de 50 ans regardent les sites de streaming. Comme quoi, il ne faut jamais juger un livre par sa couverture.
Naofel, Lilou, j'ai adoré notre conversation sur le monde du cinéma.
Merci les filles.
Val de Ancel.
Bonjour, nous sommes Lucas et Ethanel et nous allons vous présenter l'influence que peut avoir la musique sur les jeunes, leur réussite scolaire et professionnelle. La relation entre la pratique de la musique et la réussite scolaire, ainsi que le développement des compétences chez les jeunes, est un sujet fascinant et souvent débattu. De nombreux chercheurs ont exploré les liens entre la musique et les performances académiques, mettant en lumière les avantages que la pratique musicale peut apporter aux jeunes dans divers domaines de leur vie. Dans cet exposé, nous examinerons de près comment la musique peut influencer positivement la réussite scolaire et le développement de compétences chez les jeunes en nous appuyant sur des données.
Un exemple probant de l'influence positive de la musique sur la réussite scolaire est celui des études, qui montrent que les enfants qui apprennent à jouer d'un instrument de musique ont tendance à obtenir de meilleurs résultats académiques que leurs pairs non musiciens. Par exemple, une étude menée par l'Université de Toronto a révélé que les élèves qui participent à des programmes musicaux ont des résultats scolaires supérieurs en mathématiques, en lecture et en écriture. Par exemple, par rapport à ceux qui n'ont pas une exposition à la musique.
Prenons l'exemple inspirant de Selena Gomez, un artiste populaire dont la vie illustre parfaitement les bienfaits de la musique sur le développement des jeunes. Selena Gomez a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement dès son plus jeune âge, en apparaissant dans des émissions de télévision et en participant à des projets musicaux. Sa passion pour la musique l'a non seulement aidé à échapper à certains défis personnels, mais l'a également contribué à son succès professionnel.
En conclusion, la pratique de la musique peut avoir un impact profondément positif sur la réussite scolaire et le développement des compétences chez les jeunes. Des études montrent que l'exposition à la musique peut améliorer les performances académiques, tandis que des exemples comme celui de Selena Gomez illustrent comment la musique peut être un catalyseur pour le succès personnel et professionnel. Il est donc crucial de reconnaître et de soutenir le rôle de la musique dans l'éducation et le développement des jeunes. Merci.
Val de Ancel. Salut Chahine, tu sais quoi, tout à l'heure, dans le bus, j'ai reçu des propos sexistes.
Ah bon, ça existe encore le sexisme, mais quels propos as-tu reçus ?
Il m'a dit mot pour mot, les femmes n'ont pas leur place dans la société. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à subir ça. Un rapport a été publié le lundi 22 janvier sur le sexisme. C'est une régression après des années de lutte féministe.
Et d'après cette étude, les hommes subissent-ils encore du sexisme aujourd'hui ?
Cette étude a montré que les jeunes hommes sont de plus en plus nombreux à penser que le féminisme menace leur place dans la société. Cette tendance touche toutes les tranches d'âge. Ils sont 52% à estimer que l'on s'acharne sur les hommes. D'après 40% des 15-25 ans, il est même de plus en plus difficile d'être un homme aujourd'hui. Les 25-35 ans sont 1 sur 3 à estimer qu'il est normal de s'occuper des enfants quand on est une femme. Cependant, il n'était que 1 sur 4 à le penser avant.
Peux-tu m'en dire plus en ce qui concerne le domaine médiatique ?
En effet, les femmes ont toujours été exposées face à l'inégalité homme-femme, et surtout dans l'audiovisuel, avec une visibilité presque inexistante. Il y a 30 ans, on ne voyait aucune femme à la télé. Cela a évidemment changé, mais celles-ci maintiennent un temps de parole limité.
Par exemple, l'apparition des femmes est environ de 45% pour un temps de parole qui stagne à 36%. Les femmes sont moins présentes durant les heures de forte audience à la télévision.
Ensuite, les femmes sont aussi sous-représentées dans le domaine du sport, avec très peu de présence en plateau et seulement 9% de présentatrices et journalistes. D'ailleurs, en 2017, une loi a été créée pour lutter contre le sexisme au sein des publicités. Quelques années après, on a constaté que les femmes deviennent majoritaires dans le domaine publicitaire, tout rôle confondu. Pour terminer cet épisode, on aimerait souligner le fait que malgré de nombreux progrès de notre société, il reste encore des choses à améliorer. On retrouve toujours des stéréotypes, notamment au sein des publicités et de la représentation des femmes, souvent sexualisées.
Val d'Or en scène.
Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent et bienvenue à la radio du lycée Val d'Or en scène. Votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer les enjeux qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur de la démocratie européenne avec un focus particulier sur les élections européennes à venir, prévues pour le 6 et 9 juin 2024. Au cours de cette émission, nous examinerons de près le mode de scrutin français, un élément clé de ce processus électoral.
Le mode de scrutin français se distingue par ses particularités par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Alors que chaque nation a ses propres règles, de plus, nous vous présenterons les principaux candidats en lice pour cette élection. Restez avec nous pour une analyse approfondie du mode de scrutin français, ainsi qu'une présentation brève des candidats qui ont pour objectif de représenter la France au Parlement européen. Nous sommes Manon et Rayana, vos guides dans cette exploration de l'élection européenne. Restez à l'écoute, car nous nous plongeons dans les détails pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Tout d'abord, le mot scrutin désigne l'ensemble des opérations de vote et des modes de calcul destinés à départager les candidats aux élections. Il ne s'applique pas aux seules élections politiques. On parle aussi de scrutin quand une assemblée vote pour prendre une décision. Lors des élections politiques, les étapes du scrutin correspondent à l'ensemble des actions qui ont lieu dans un bureau de vote. Le scrutin prend fin au moment de la fermeture du bureau de vote.
Les modes de scrutin dépendent du pays et du type d'élection. En France, le mode de scrutin peut être soit majoritaire, c'est-à-dire que le ou les candidats qui obtiennent la majorité des suffrages exprimés sont élus. Il peut aussi être proportionnel, c'est quand les sièges à pourvoir sont répartis entre les différentes listes proportionnellement au nombre de suffrages recueillis. Ou bien ils peuvent être mixtes, c'est un mélange des deux. Et enfin, il peut aussi être uninominal, c'est-à-dire que les électeurs votent pour un seul candidat.
Maintenant, plongeons directement dans l'élection européenne en vous présentant les principaux candidats. En raison de contraintes de temps, nous nous concentrerons sur leurs noms et partis politiques. Tout d'abord, il y a Raphaël Glucksmann, du parti politique de la Place Publique. Ensuite, François-Xavier Bellamy, du parti Les Républicains. Ensuite, Manon Aubry de la France Insoumise. Et pour finir, Marie Toussaint de l'Europe Écologie et Où les Verts.
Pour finir, nous allons vous rappeler les dates du vote, car oui, il est très important de voter. Les élections européennes se tiendront du 6 au 9 juin 2024. On vous remercie pour votre écoute, on vous laisse avec la suite du programme. On espère que vous allez apprécier.
Val d'Or en scène.
Bonjour, ici Yasmine.
Et Océane.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des jeux vidéo et de leur impact positif, mais aussi négatif. Toi, Océane, tu joues aux jeux vidéo ?
Oui, j'y jouais souvent avant, mais maintenant, avec les cours, je n'ai plus vraiment le temps. Et toi ?
Ah, vraiment ? Moi aussi. Et tu joues à quoi ?
Les Sims, et toi ?
Animal Crossing.
Oh, d'accord. Tu sais, j'ai appris que les jeux vidéo avaient participé aussi à la socialisation. Une sociologue des médias explique que les écrans sont devenus essentiels. Les jeux ne sont plus qu'un simple passe-temps. Le plaisir de jouer ensemble se révèle aujourd'hui une réelle source d'épanouissement et un facteur de lien social.
Oui, c'est vrai que maintenant, les jeux vidéo sont plus souvent pratiqués de manière collective qu'individuelle, ce qui nous rassemble.
Oui, on joue en équipe, les uns contre les autres. On voit le plaisir de jouer ensemble. Toi, t'as déjà joué à des jeux collectifs ?
Ça m'est déjà arrivé avec ma famille et aussi des amis. Et toi ?
Pareil, les jeux vidéo permettent vraiment de communiquer en travaillant en équipe avec d'autres joueurs pour atteindre un objectif commun. C'est vraiment cool.
Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, tu savais que les jeux vidéo pouvaient avoir des bienfaits sur la santé ?
Ah bon ?
Oui, les bienfaits des jeux vidéo sont nombreux. Stimuler la capacité cognitive, la concentration, améliorer le raisonnement, la coordination, la mémoire à court terme, diminuer le stress.
En effet, ça fait beaucoup.
Il y a même une étude conduite sur une durée de 10 ans qui révèle même qu'il réduirait le risque de démence près de 30%.
Waouh, dans ce cas, je devrais me mettre à jouer aux jeux vidéo pour réduire ce risque.
Oui, on devrait. Il y a même le neuroscientifique américain Adam Casaley qui suggère que la pratique régulière des jeux vidéo, notamment des serious games, permettait d'améliorer durablement les capacités mentales des personnes âgées.
C'est génial, mais je pense pas que beaucoup de personnes âgées jouent aux jeux vidéo.
Eh bien si, récemment j'ai appris qu'il existait une Domitis Cup. C'est un tournoi de jeux vidéo intergénérationnel qui rassemble les personnes jeunes et les seniors.
Oh, ça existe vraiment ?
Oui, c'est des duos composés d'un jeune et d'un senior. L'année dernière, c'est même un duo castelnovien qui s'est imposé avec Jean-Louis, un passionné de jeux vidéo de 33 ans, mais aussi Germaine, une résidente de Domitis âgée de 94 ans.
Wow, 94 ans ! On comprend donc que l'impact des jeux vidéo peut être bénéfique et apporter énormément de joie en enrichissant les liens sociaux entre les personnes et quel que soit leur âge.
Exactement. Les jeux vidéo recèlent donc des avantages sur le plan relationnel puisqu'ils permettent de lutter contre l'isolement et de renforcer les liens intergénérationnels en partageant un loisir commun avec sa famille par exemple.
Je suis d'accord avec toi, mais les jeux vidéo recèlent aussi des désavantages et peuvent accentuer l'isolement au lieu de lutter contre. Par exemple, les jeux vidéo violents peuvent pousser le joueur à être agressif envers leur famille, leurs amis, professeurs et leur entourage. Cela provoque alors un isolement et crée de gros problèmes sociaux. Dans certains cas même, les jeux vidéo sont une source d'addiction et isolent les pratiquants. Il faut savoir s'arrêter et ne pas sacrifier sa vie sociale ou même ses études pour jouer.
Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut faire très attention à la manière dont on utilise ces jeux. D'ailleurs, tu savais que Mario Kart 8 Deluxe, GTA V, Call of Duty, FIFA, Minecraft et Animal Crossing New Horizons sont les jeux les plus vendus en France.
En effet, l'industrie du jeu vidéo se révèle très lucrative. Pour l'année 2022, elle a rapporté 5,5 milliards d'euros. On peut tout de même constater un très léger recul de moins 1,6% par rapport à 2021, mais le bénéfice qu'elle rapporte reste très impressionnant.
Ces chiffres nous montrent aujourd'hui que le jeu vidéo a pris une place importante dans notre société au point qu'ils ont leur compétition officielle, le e-sport. Mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
C'était Océane et Yasmine pour Val de Seine. Passez une excellente journée.
Val de Seine, en direct de 10h à 16h, la radio qui se met en scène.